au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour nos auditeurs Frédéric Vitoux, qui est un écrivain très connu en France, académicien français, et qui s'est notamment illustré dans les domaines du roman, de la biographie et de la critique littéraire et cinématographique. Il a un parcours qui est un parcours d'excellence, lycée Charlemagne à Paris, Mathsup, et le concours original en plus, concours d'entrée à l'IDEC, c'est-à-dire l'Institut des hautes études cinématographiques, et il bifurque du côté de la Sorbonne, en sort en 1968 avec un doctorat de troisième cycle et une thèse consacrée à Louis-Ferdinand Céline. Frédéric Vitoux est un monsieur de très grande qualité. Il faut noter que son premier roman, paré en septembre 1973, s'intitule « Carte postale » et est publié chez Gallimard. Ça fait rêver les jeunes auteurs et romanciers. Il connaît bien la Côte d'Azur, il y vit fréquemment, et il a publié plusieurs livres extrêmement intéressants que je recommande à tous les éditeurs, qui certainement en connaissent plusieurs, « L'ami de mon père »,« La Nartelle »,« Riviera »,« Clarisse ». Frédéric Vitoux est un spécialiste de Louis-Ferdinand Céline, nous en reparlerons tout à l'heure, et il a été élu, une carrière magnifique, il a été élu à l'Académie française le 13 décembre 2001 au fauteuil 15, succédant à Jacques Laurent. J'ajoute qu'il a une bonne trentaine de livres à son actif, et pas des moindres, croyez-le, je ne peux pas donner la liste tout de suite. Alors, on pourrait démarrer, je suis un peu étonné que vous qui avez écrit un livre magnifique, Le Dictionnaire des chats, il y ait si peu de chats dans Jour inquiet dans l'île Saint-Louis.
Alors, dans Jour inquiet dans l'île Saint-Louis, il y a tout de même un chat, puisqu'il y a, apparaît fugitivement dans le livre, à la fin du livre, un couple qui est en fait moi-même et à ma femme, sous le nom de Pierre Mur, qui a été souvent mon pseudonyme et où j'apparais dans d'autres romans sous ce nom-là, Pierre comme le prénom de mon père et Mur comme le nom du célèbre chat de Hoffmann, le chat Mur, qui est le titre du dernier livre du grand romantique allemand Hoffmann. Et à un moment donné, le héros va rendre visite à Pierre Mur et à sa femme, et c'est évidemment moi et ma femme à qui il rend visite, et il a un chat, une petite chatte que j'évoque, qui est ma chatte, qui s'appelle Zelda, qui elle est sous son nom propre. Donc quand même, j'apparais dans le livre un peu comme, on pourrait dire que parfois dans les tableaux anciens, le peintre se dessine un petit peu malicieusement dans un coin du tableau, donc quand il y a des tableaux de groupe. Donc j'apparais dans un coin du tableau avec mon chat.
Écoutez, c'est tout à fait magnifique et croyez-le ou pas, j'avais noté cette proximité entre vous et M. Mur en vous lisant tout à fait bien. Et d'ailleurs, il faut aussi remarquer que le chat quand même est relativement présent dans le personnage de Dorothée qui a les yeux incertains des chats. Ah, c'est oui, vous-même qui le notez dans le livre « Les yeux incertains du chat voilà. ». Et donc, voilà. Dorothée quand même a une place qui n'est pas négligeable dans le roman. Les personnages, ils sont très touchants.
Si vous voulez,
ils sont très touchants, les personnages.
Oui, ça, touchant, c'est un qualificatif. Moi, je ne me permets pas de faire des commentaires sur mes personnages, en tout cas pas des appréciations qualitatives. Ce n'est pas à moi de le faire. Le thème du livre, et je vais en venir aux personnages, si vous voulez bien, « Jours inquiets dans l'île Saint-Louis ». Parce que, au fond, l'île Saint-Louis, peut-être comme toutes les îles, mais peut-être plus encore que d'autres, me paraît, en tout cas c'est vrai aux yeux de beaucoup de ces insulaires, des ludovisiens, pour employer un terme un peu amusant et précieux pour définir les habitants de l'île Saint-Louis, comme des gens qui vivent un peu à l'écart du monde ou à l'écart de la capitale. L'île Saint-Louis est un peu immobile dans son architecture un peu figée qui est celle du XVIIe siècle. Et je pense que les habitants de l'île veulent toujours rêver d'un monde en dehors de tous les soubresauts de l'histoire, de toutes les angoisses, de toute la peur, de toute l'actualité, de la mort même. Et donc il y a ce thème de l'île au sens isolement. Vous voyez, refuge. Et au fond, mon livre, c'est qu'est-ce qui peut inquiéter, qu'est-ce qui peut bouleverser ce rêve de non-existence, de repos absolu des habitants de l'île. Et je prends un personnage principal, qui est un personnage d'un avocat veuf.
Charles Ballanche.
Charles Ballanche, qui est ça. Et aussi, pour l'essentiel, les habitants de cet immeuble avec une vieille dame qui habite au-dessus.
Madame Lemonnier.
Voilà, Madame Lemonnier qui était professeure. Et puis, il y a aussi, encore au-dessus, il y a des chambres de bonne, qu'on appelait autrefois les chambres de bonne. Et là, Charles Ballanche loge la fiancée ou la compagne ou la petite amie, peu importe les termes, de son neveu qui, lui, travaille pour l'instant à Londres dans une banque. Et il a demandé à son oncle de s'il pouvait loger sa compagne, sa petite amie, le temps d'un stage qu'elle fait, elle est d'origine anglaise, à Paris, dans un magazine féminin. Et donc, il est alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui trouble cette inquiétude? C'est ça, au fond, le thème du livre. Et comment ça se reflète? Alors, il y a des inquiétudes externes et des inquiétudes plus profondes, je dirais.
Tout à fait.
Les inquiétudes externes, c'est tiré d'un fait réel qui s'est passé dans l'île il y a deux ans et demi. C'est un homme, un jour, un matin de bonne heure, a été égorgé, rue Saint-Louis en Lille, par un inconnu qui s'est arrivé derrière lui avec un cutter, essayé de lui couper la gorge. L'homme est tombé, il n'était pas totalement mort. L'homme a pris la fuite, on ne sait même pas pourquoi il lui a coupé la gorge. C'est une sorte d'acte gratuit, ce n'était pas pour le voler, ce n'était pas pour lui prendre son portefeuille, ce n'était pas une agression sexuelle, c'était une sorte d'acte de violence pure. Et ça a beaucoup inquiété les habitants de l'île Saint-Louis. Alors j'ai imaginé un deuxième crime, et presque une enquête, je ne dirais pas la Simenon, mais dans cette île, avec ce fait divers-là. Puis, l'action se passe pendant un mois, ce mois d'octobre 2010, où il y avait toutes ces manifestations dans Paris au moment des projets de réforme des retraites, et qui devaient passer de 60 à 62 ans, avec beaucoup de manifestations dont la plupart effleuraient l'île, parce qu'elles passaient par le boulevard Henri IV, la pointe de l'île, et créaient comme une sorte de frisson d'inquiétude. Et la troisième inquiétude extérieure, si je puis dire, c'est l'arrivée d'un homme étrange, d'un ancien éditeur qui vient voir ce Charles Ballanche pour lui demander de l'argent, et peu à peu, sa folie inquisitrice...
Jean Lefort,
monte dans une sorte de... presque de cauchemar. Ça, ce sont les inquiétudes, je dirais, externes, objectives. Et puis, il y a une autre inquiétude qui est plus profonde, qui est celle d'un vieil homme, d'un homme de 70 ans, qui veut vivre en étant plus proche du vicomte de Bragelonne et de la mort de Porthos que de ses contemporains, et qui est assez attachant, assez touchant, mais qui vit comme ça dans une sorte de quiétude absolue. Et la présence près de lui de cette jeune fille, qui est
Dorothy,
la petite amie de son neveu, qui s'appelle Dorothy, qui est anglaise, qui est tourbillonnante, qui est frivole, qui est rapide, qui peut coucher à droite, à gauche, ça compte pas beaucoup pour elle, et qui étourdit cet homme, comme une sorte de dernier frisson sensuel, de dernière tentation, de dernière aventure possible ou pas possible, entre cette jeune fille qui est touchée par cet homme âgé, qu'elle prend à la fois pour son père et qu'elle pourrait prendre comme un vieil amant, et qui le trouble. Et donc tous ces troubles, toutes ces inquiétudes nourrissent ce roman jusqu'à une fin qui monte dans le cauchemar et qui s'apaise par un dernier accord plutôt l'argot, plutôt d'apaisement en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour situer un peu les personnages du livre. Alors il y en a d'autres, il y a aussi un jeune Polonais qui habite aussi dans une chambre
Thomas.
À côté, qui s'appelle Thomas, qui travaille dans un garage. Il y a aussi dans ce livre, ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui, que j'aime pas beaucoup, un livre un peu choral, c'est-à-dire avec plusieurs personnages dont les vies, dont les destins se croisent, s'entrecroisent, se mêlent, se démêlent. Tout ça autour d'une figure plutôt centrale qui est celle de Charles,
Charles Ballanche.
Est un peu le personnage central dans lequel j'ai mis certains de mes traits de caractère.
Oui, et je trouve, après avoir lu très attentivement votre livre, qu'il y a aussi, ce qui est formidable, une atmosphère. Là, vous rejoignez Simenon ou d'autres, mais il y a une atmosphère. Il y a le décor, vous parlez du comte de Bragelonne qui est quand même très, très présent, ce côté mousquetaire. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait du fleuret. Il y a tout de même des tas de clins d'œil. C'est un livre clin d'œil. Et c'est vrai, ce qui est très intéressant, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années. C'est un livre qui vraiment oscille. C'est pas faux, vous aimez le cinéma, c'est plein de références très, très intéressantes. Ça aussi entre My Fair Lady et Psychose. Mmh. Et c'est ça qui est assez fascinant. Quand tout à l'heure, vous avez parlé, je me permets, de Dorothy et de Charles Ballanche, il y a quelque chose quand même de très émouvant. Leur amour est contenu, retenu, et plus fort qu'il n'en a l'air quand même. Parce que moi, j'ai noté à la page, à la fin du livre, ils se disent, comme si c'était sorti de Tristan et Isolde, d'ailleurs c'est assez fascinant, le promis de Dorothy s'appelle justement Marc, au passage, il faut quand même le signaler, et il lui sort la page 270, « Tu es unique, Charles !» Et lui, il lui dit à son tour, un peu plus loin, « Tu es unique !» Donc il y a quelque chose de très émouvant dans l'amour qui ne pourra pas surgir, mais qui donne au livre, qui montre la force de la passion qui rejoint le comte de Bragelonne. Enfin, j'espère que je ne m'égare pas, tout ça. Et pour ajouter, juste un dernier mot, avant cette passion amoureuse qui reste à l'étage sous-jacent, il y a même toutes les images que vous trouvez dans le Tristan et Isolde, le vin qui grise, le filtre, et le vin qui grise, page 277, etc. Donc, vous aimez bien le vin, la bonne chère, etc. Enfin, le personnage de Charles Ballanche. Un livre que je trouve très émouvant, personnellement, une belle intrigue, ça se passe sur un mois, etc. Et puis alors, vous abordez quand même des thèmes, l'amitié. C'est un thème qui est important, qui est important, le thème de l'amitié, je trouve.
Oui, dans... sans doute.
Mais pour en venir, on sent que ça vous touche, mais revenez.
Et pour en venir à ce que vous dites sur l'atmosphère, en effet, ce n'est pas par hasard que le titre du livre, c'est l'île Saint-Louis. Parce que je dois vous faire une confidence, j'habite l'île Saint-Louis, je suis né dans l'île Saint-Louis, je couche dans la chambre où mon père physiquement est né en 1908, j'habite cet appartement depuis ma naissance, mais je veux dire, ma famille l'habite depuis le début du XXe siècle, depuis 1906, et cette île, j'y suis très attaché. Et donc, j'ai voulu aussi faire ressentir cette atmosphère, ce climat, cette beauté un peu léthargique de l'île Saint-Louis, justement à quoi s'opposent les inquiétudes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, c'est un livre aussi sur un quartier, sur ses vibrations, sur ses fantômes, parce que si Dieu sait s'il y a un quartier de Paris...
Carco et compagnie.
Mais aussi bien, ça peut remonter plus loin, à Baudelaire et au XVIIe siècle, et à Philippe de Champagne, à Voltaire... Donc, je suis très sensible à ce quartier, à tous les fantômes qui le hantent. Et voilà, donc ça, c'est pour dire que le décor est plus qu'un décor, c'est un acteur du livre.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Voilà, ça, c'était la première chose. Sur la deuxième chose, oui, bien sûr, vous êtes un lecteur très attentif et je vous en sais vraiment gré.
Jamais assez.
Non, mais tous ces petits cailloux que les gens voient ou ne voient pas. Mais certains m'échappent. Par exemple, c'est après coup. Mais c'est vraiment ayant fini le livre, en relisant les épreuves, que je me suis rendu compte que c'était un schéma, toutes choses égales, évidemment. Attendez, j'ai bien conscience que ce roman avait ce qu'il a peut-être de très léger par rapport au chef-d'œuvre absolu de la littérature. Je ne compare pas une seconde, comprenez bien. Mais je me suis rendu compte que le schéma était au fond assez proche de celui de Tristan, sauf que c'est avec le roi Marc. Et je n'avais pas pensé du tout que Marc, c'était le roi Marc. Mais sauf que c'est le contraire. Sauf que là... À la fin du livre, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette tentation qu'éprouve, mais le vieux qui aime cette jeune fille et qui peut-être est troublé par cet homme. Alors, je disais 70 ans, est-ce qu'on peut être troublé? Et ma femme me disait en riant, après tout, on peut bien tomber amoureux de Clint Eastwood, une jeune fille, aujourd'hui. Donc, bon, je ne sais pas si mon héros ressemble à Clint Eastwood, mais enfin, donc ce n'est pas théoriquement impossible. Et à la fin du livre, sentant que ce trouble monte, et jusqu'où va-t-il aller? D'ailleurs, il y a une petite doute à la fin. En tout cas, comme... Dans Tristan, finalement, Tristan ramène Isolde au roi Marc à qui elle est promise. À la fin du livre, et c'est assez déchirant d'ailleurs, il appelle son neveu pour lui dire « Dorothy n'est pas bien, elle a subi une agression, peu importe. » Les détails, va la chercher. Et il craque, en quelque sorte, il redonne Dorothy à celui à qui elle est promise. Et c'est le schéma inversé. Et c'est drôle parce que vous parlez de cinéma. Et d'un seul coup, j'ai dit à la fin du livre, mais encore une fois, ce n'est pas du tout présent. Vous savez, quand on écrit un roman, si je puis dire, dans une boutade, il ne faut pas penser à son inconscient si on veut que son inconscient pense à vous. Donc, c'est des choses qui m'habitent et que je réalise souvent a posteriori. Mais j'ai pensé qu'il y a un chef-d'œuvre du cinéma inspiré par un des plus grands romans européen de la fin du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, c'est Le Guépard de Visconti.
Ah oui, magnifique.
Et dans Le Guépard, à la fin du Guépard, l'oncle, joué par Burt Lancaster au cinéma, et son neveu Tancred, et qui est fiancé à une jeune fille radieuse, somptueuse, à qui Claudia Cardinal, dans tout l'éclat de sa beauté à l'époque, avait vraiment donné une vie incroyable, une sensualité incroyable. Et à la fin du livre, il y a ce bal qui dure pratiquement 45 minutes dans le film, où il valse avec sa nièce par alliance. Et il y a un trouble, une sorte d'érotisation de ce bal, de cette jeune fille qui danse avec cet oncle qu'elle trouve si beau, si merveilleux. Et il se passe quelque chose entre eux, et Tancred est jaloux. Et à la fin du bal, il raccompagne la jeune fille auprès de son neveu qui lui dit « Si ça n'avait pas été toi, j'aurais été jaloux. » Et le héros quitte, s'en va au matin et il y a une procession religieuse qui passe, c'est un enterrement. Et je me dis « Mais c'est incroyable, dans mon livre, c'est la même chose. »
À l'église aussi.
Et voilà, il demande et il sort. Alors, ce n'est pas une procession, un enterrement qui passe, mais il entend les cloches de l'église qui sonnent et il s'y rend. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je n'ai pas du tout pensé au guépard. Et ce
que
schéma...
Que vous ne citez pas dans le livre.
Non, que je ne cite pas dans le livre, parce que je n'y ai même pas pensé. Et d'un seul coup, j'ai pensé que ce schéma dramatique est exactement celui de la fin de mon livre. Mais ce que veut dire quoi? Ça veut dire simplement, au fond, que quand on écrit des histoires, des romans, des films, des scénarios, peu importe, des pièces de théâtre, les thèmes dramatiques, toute l'histoire de la littérature ou du théâtre, se reviennent à quelques dizaines d'archétypes et qui sont développés différemment les uns les autres.
Mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois par moments léger, il est très souvent profond, il y a un mélange des thèmes, le cinéma, la littérature, même la bibliophilie. Et alors ce Charles Ballanche est un personnage quand même très attachant avec le temps au fil des pages. Alors d'abord, ce qui est très plaisant chez Charles Ballanche, contrairement à notre époque, c'est qu'il a du temps. Et ça, voilà. C'est un aspect comme l'île Saint-Louis, où, qui est dans son temps, dans son jus. Et puis alors Charles Ballanche, il est à la fois timide, la peur de faire violence aux autres, c'est quand même des éléments assez rares qu'on dise ça aujourd'hui, la peur de faire violence aux autres, le souci d'esquiver tout rapport de force. Et là, ça montre un peu certains aspects du personnage. Et en plus, Charles Ballanche, il aime rendre service aux autres, notamment avec Madame Le Monnier, ou avec le jeune Thomas, ou avec Dorothy, à qui il prête la chambre, etc. Ou même avec Le Fort. Le Fort est un autre personnage, alors évidemment, lui, le plus noircissant, je veux dire, qui renvoie. Céline apparaît un peu autour de lui, la période un peu de la guerre aussi, avec l'affaire du... Mais c'est un livre qui est plein de puissance, je trouve. C'est un livre important, je dirais, même pour notre époque. Et, ne l'oublions pas, autre thème, l'état de la France, quand même, de temps
oui,
à autre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons, quand vous parliez du climat du livre, je ne dis pas que c'est dans le livre, mais dans les... ce que je voulais trouver comme climat, c'est un climat d'abord de... presque dans le ton, parfois, de comédie. Parce que j'aime bien ce qui est léger. Il y a certaines scènes entre la jeune fille et cet homme retraité, veuf, un ton de comédie avec
My
des dialogues...
Lady. My Fair Lady.
Avec des dialogues très rapides, et aussi de profonde mélancolie. Pourquoi cette mélancolie? Peut-être la mélancolie de ce quartier abrité de tous les aléas de l'histoire, peut-être. Mais cette mélancolie, au fond, qui est une évocation que j'ai tenté de faire, parfois des abîmes qui se creusent entre les générations. Et que cet homme de 70 ans et cette jeune fille de 24 ans qu'ont-ils de commun?
Ben non, et, ce qui les empêche, c'est la culture.
Et, voilà, c'est-à-dire le passé de l'un et la culture de l'autre qui ne lui appartient pas. Et j'ai voulu montrer cet effort de cet homme âgé de se pencher vers cette jeune fille pour qui, de toute façon, même s'il est attendri par ce Charles, sera toujours pour elle un étranger parce qu'aura-t-elle un jour un langage commun avec lui? Parce que toute cette culture dont il est nourri, elle n'en sera probablement jamais nourrie. Et ça, c'est une évolution de l'époque, si vous voulez, cette rapidité, cette amnésie peut-être dont souffrent certains aujourd'hui, cette disparition des humanités, etc. Donc, ce n'est pas du tout un livre de vieux ronchons qui dit « Ah, oh, les jeunes, maintenant,
absolument
ça ne fait rien ».
Pas
du tout.
Pas. Non, non.
Mais c'est pour montrer quand même cette plus grande difficulté à se retrouver d'une génération à l'autre parce que même les valeurs ont changé. Bien sûr, il y a toujours eu le divorce des générations, les oppositions parents-enfants, mais il y avait quand même un peu un langage commun. Ce langage commun, là, il disparaît.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve très... très déchirant.
C'est déchirant.
Très
et
déchirant.
Vous dites à la page 59, vieillir, n'est-ce pas précisément le fait de se sentir étranger au temps nouveau, dont on reste encore et pour combien de temps le contemporain?
Voilà.
Et ce thème sur le vieillissement, sur la personne qui avance dans la vie, c'est assez déchirant.
Oui, et c'est pas par hasard si le héros, durant cette période qui est celle du roman, termine de lire Le Vicomte de Bragelonne, qui est non seulement l'un des plus grands, à mes yeux, l'un des plus grands romans de la littérature française.
Vous n'avez pas
et
tort.
Et moi, je pense que la trilogie des Trois Mousquetaires, 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne, et surtout Le Vicomte de Bragelonne, je vais peut-être faire sursauter les auditeurs de Canal Academy, je prends mes risques. Pour moi, c'est un livre qui est peut-être aussi beau, peut-être plus beau que La Recherche du Temps Perdu de Proust. Parce que, au vieillissement des personnages, à l'évolution des personnages, justement, vers la mort, et au sentiment qu'ils éprouvent soudain de tout ce qui s'est creusé derrière eux, entre le temps retrouvé et ce qui est passé derrière eux, il y a une chose qui n'a pas dans Proust, c'est que justement, cette citation que vous venez de faire en disant « se sent étranger au temps nouveau », on peut dire que les personnages de Proust étaient déjà étrangers à leur temps dès le début. Les Guermantes sont déjà déconnectés de leur histoire. Alors que dans les personnages des mousquetaires, ils sont accordés à leur temps, à l'époque de Louis XIII, des nobles frondeurs, bagarreurs, etc. La fronde, quand ils sont dans un âge qui commence à devenir mûr dans les 40-45 ans, déjà, c'est les derniers sursauts d'une noblesse turbulente, je dirais. Et le vicomte de Bragelonne, c'est un changement d'époque. Un changement d'époque où, avec la puissance de la monarchie absolue, les nobles que représente ce type de nobles ou de frondeurs ou de mousquetaires que représentent les mousquetaires n'ont plus leur place. Le temps est venu de Versailles et des courtisans. Et donc, D'Artagnan vieux se dit « Je n'appartiens plus à mon temps, non pas parce que je suis vieux, je ne peux plus combattre, mais parce que les valeurs de cette nouvelle société ne sont plus les miennes. Je ne suis pas un courtisan. »
Et c'est très émouvant.
Donc, ces sentiments du vieillissement, le héros le ressent et il est bouleversé à la fin du vicomte de Bragelonne. Et naturellement, comment voulez-vous qu'une petite Anglaise, avec des origines un peu françaises aussi, mais peu importe, comprenne quelque chose à ça? Elle ne peut rien comprendre. Elle voit cet homme qui, pratiquement en larmes à la mort de Porthos, elle ne peut pas comprendre.
C'est un livre à de très nombreux tiroirs. Il faut bien le reconnaître. Ah oui, oui, de très nombreux tiroirs, parce que je suis sûr qu'on relit deux fois, trois fois, etc. C'est très important. Puis alors, vous parlez du comte de Bragelonne, vous parlez des mousquetaires, vous-même, vous savez ce que c'est que jouer du fleuret.
Un académicien à une épée aussi,
tout à fait. Et n'oublions pas quand même, vous ne m'avez pas répondu peut-être tout
sur
à fait au début, sur l'amitié.
Oui.
Et l'amitié, vous dites, à la page 172, « Un ami est un démultiplicateur de bonheur ». C'est une phrase magnifique.
Oui, je crois.
C'est magnifique.
Oui.
Et puis c'est vrai, l'amitié.
Je crois que c'est ça la tragédie de la solitude, c'est de ne plus avoir personne à qui faire partager ses émotions, ses découvertes, ses enthousiasmes ou ses chagrins. Et que, à la fois, le personnage principal du livre, ce Charles Ballanche, est à la fois seul parce qu'il est veuf, et en même temps, il y a ce sentiment de fidélité, même envers un vieil ami qu'il a, avec qui il a été élevé, ou quasiment élevé, qui est un vieux garagiste qui va prendre sa retraite.
13 heures.
Voilà, 13 heures.
Et
où Thomas, le petit Polonais un peu intimide, qui l'a beaucoup aidé pour l'intégrer à la société française, trouver des papiers, etc., travaille. Et il y a cette complicité-là, cette amitié-là aussi. Mais l'amitié, c'est non seulement des émotions que l'on partage, mais des années que l'on a traversées ensemble.
Pour conclure, disons, il y a un personnage, enfin hélas, mais les auditeurs, je crois, vont être ravis. En fait, je conseille aux auditeurs de relire Dumas, bien entendu. Lisez, achetez en même temps Dumas et achetez en même temps Frédéric Vitoux.
Oh non.
Parce que, moi je trouve
Dumas
que le livre...
Dumas, c'est un chef-d'œuvre.
Dumas est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on dira de votre livre que c'est un très, très bon livre. Je ne sais pas, un chef-d'œuvre, ce n'est pas moi qui décide. Je trouve que c'est un très bon livre, Frédéric Vitoux.
Très aimable.
C'est un vraiment un très bon livre. J'ajouterai, il y a un personnage que vous aimez beaucoup dans ce livre, c'est finalement Madame Lemonnier.
Oui.
Et vous êtes toujours surprenant, parce qu'au fond, ce vieux monsieur Ballanche, tout à fait surprenant, et puis il est une sorte d'intermédiaire, parce que Madame Lemonnier voudra acheter le garage pour faire plaisir au jeune Thomas.
Oui, qui l'aide beaucoup. Et...
C'est le My Fair Lady de Psychose à
My
Fair Lady.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison, il y a ces deux climats-là. Mais je ne peux pas me souscrire avec reconnaissance à votre double comparaison. Je crois que c'est ça, en effet. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout dit.
Hein, écoutez, pour conclure,
sur la mélancolie, sur l'amitié.
Très
et puis ce
livre.
Personnage que j'ai bien aimé, c'est ce personnage qui appartiendrait peut-être à la littérature russe, un peu ces personnages gris. C'est le personnage de Lefort, ce personnage qui monte en puissance dans le livre.
Ah, qui inquiète.
Qui est inquiétant. Et qui est un personnage en même temps, comme dirais-je, un peu passe-partout, comme certains héros, peut-être certaines nouvelles de Tchekhov, peut-être. Vous savez, ces personnages gris-souris qui sont là, qu'on ne reconnaît même pas dans la rue.
Qu'on ne peut pas décrire à la police.
Non, parce qu'ils sont comme ça, neutres, blafards, banals. Et puis, touchant à la limite de la... Enfin, la limite même... Oh, la limite est sûrement franchie de la maladie psychique, quoi. Et d'une sorte de schizophrénie paranoïde un peu inquiétante. Et qui monte. Et ce qui est amusant, c'est qu'un livre, c'est une fiction, donc c'est complètement inventé. Mais un romancier, c'est comme un peintre qui prend des couleurs dans ses tubes et puis qui les mélange pour faire des couleurs et des accords originaux. Bon, moi, je me suis inspiré de tel ou tel personnage. Mais aucun, c'est pas un roman à clé du tout.
Non.
Sauf que personnages secondaires du livre, ceux qui ne jouent pas un rôle dramatique, ils existent tous en chair et en os.
Oui,
C'est-à-dire qu'il apparaît, je sais pas moi, un kinésithérapeute qui est sous son vrai nom, la boulangère qui est sous son vrai nom.
La restauratrice.
Oui, le responsable de la bibliothèque de livres anciens, Bernard Clavreuil, c'est un ami, il existe pour de vrai. Tous les personnages secondaires, je dirais, sont pris dans la vie comme dans des films néo-réalistes où les gens jouent leur propre rôle, si vous voulez. Mais Pour le fort, bon, j'ai pensé à deux, trois personnages que j'ai connus qui m'inquiétaient comme ça par cette sorte de folie obsessionnelle et murmurer, mais on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Comment pourra-t-on s'en débarrasser? Ces cauchemars de ces gens qui arrivent chez vous, on ne s'en débarrassera jamais. Ils sont là, comme ça. Ils s'infiltrent, ils s'imposent.
C'est extraordinaire, ça.
Et on ne peut plus s'en débarrasser. Et c'est ce côté peut-être psychose. Ce côté, pas du tout la folie de psychose, pas la même chose. Enfin,
mais il y a une tension.
Mais cette tension de quelqu'un qui vous paraît banal au départ, puis qui devient un peu inquiétant, du bon, c'est un type, c'est un tapeur qui vient. Bon. Et puis peu à peu, ça monte, et on se dit, mais jusqu'où ça va aller? C'est ça qui donne au livre peut-être son climat, de cette tension dramatique qui monte, quoi.
Chers auditeurs, je vous conseille vivement d'apprécier Ces jours inquiets dans l'île Saint-Louis de Frédéric Vitou. Vous allez y découvrir mille choses, l'amitié, aussi une réflexion à l'occasion sur Dieu, pourquoi pas la religion catholique, quand même Dostoïevski, Pascal, Bernanos, Green, Chesterton. Et ne l'oublions pas, vous avez dans ce livre énormément de joie. C'est un livre jubilatoire, vraiment jubilatoire. Par moments, il peut vous flanquer un peu la frousse, mais tant mieux. Et Frédéric Vitou, comme je ne connais pas grand monde qui puisse faire la même chose, vous offre de temps à autre des clins d'œil extraordinaires, ou plus que des clins d'œil, sur le cinéma et sur la littérature, voire la bibliophilie. C'est magnifique, je vous remercie. Bravo.
Merci infiniment.